Bonsoir à tous. Bonsoir à tous et bienvenue pour cette 17e soirée d'éthique publique des facultés jésuites de Paris, la 8e et l'avant-dernière de cette année universitaire. Bienvenue particulièrement à ceux qui viennent pour la première fois et qui découvre cet espace de rencontre et d'échange. Ce soir encore, comme chaque premier mardi du mois, eh bien l'objectif est de nous retrouver autour d'une question qui, de près ou de loin, concerne notre rapport à la vie publique, sociale, politique, professionnelle, internationale, pour mettre en lumière un certain nombre d'éléments de compréhension et d'analyse, repérer quelques critères pour nous situer face aux enjeux et éventuellement des pistes pour continuer notre propre réflexion personnelle ou avec d'autres. Le point de départ est habituellement la parole de deux personnes qui vont partager simplement et en confiance comment ils perçoivent les enjeux de telle réalité. Et leur parole veut ouvrir à d'autres paroles, à d'autres réflexions. Je vous rappelle qu'il est désormais possible d'écouter ou de réécouter dès le lendemain, on m'a même précisé, dès le soir même, l'enregistrement de la soirée sur le site internet du Centre Sèvres, www.centre-sèvres.com. Non, il n'y a pas de trait d'union, centre-sèvres-attaché.com. Voilà, on y arrive. Alors, il y a un mois, nous avons échangé sur l'avenir de l'Europe, avec Jean-Louis Bourlange et Tommaso Padoa-Schioppa. Ce soir, c'est la situation dans les prisons françaises qui nous préoccupe et la question des politiques carcérales. Ce n'est pas la première fois que l'on fait un constat sombre de la situation dans les prisons françaises. Depuis longtemps, la surpopulation carcérale et la vétusté des établissements sont montrées du doigt. Et les conditions de détention reviennent fréquemment dans l'actualité, notamment en raison des suicides de prisonniers. Et le président Nicolas Sarkozy lui-même déclarera en juin 2009 devant les parlementaires réunis en congrès que les prisons françaises étaient une honte pour la République. Alors la loi pénitentiaire de novembre 2009 a voulu apporter des solutions à ce problème des prisons. La construction de nouveaux établissements, le développement des alternatives à l'incarcération, comme le bracelet électronique, ont notamment contribué à faire baisser le taux de surpopulation. Mais nous le savons, beaucoup reste à faire, notamment en ce qui touche au respect des droits de la personne. Et les nouvelles prisons, ultra sécuritaires, froides, risquent d'accentuer une certaine déshumanisation. Alors, quelle est vraiment la situation aujourd'hui dans les prisons françaises? Quelles évolutions observe-t-on? Est-il possible d'envisager d'autres politiques? Et sur quoi doivent porter les efforts? Bien, pour nous aider à poser de façon sérieuse et réaliste les problèmes, et puis entrevoir l'avenir, nous sommes particulièrement heureux de bénéficier de la présence de Monsieur Jean-Marie Delarue, que je vais présenter rapidement, même s'il n'aime pas que l'on fasse trop état de son parcours, mais je vais quand même le faire. Ancien Normal Sup, agrégé d'histoire, énarque, vous êtes conseiller d'État. Ancien conseiller de Jacques Delors et de Michel Delebarre, vous avez occupé les fonctions de délégué interministériel à la ville de 1991 à 1994 et de directeur des libertés publiques et des affaires juridiques au ministère de l'Intérieur jusqu'en 2001. En juin 2008, vous êtes nommé contrôleur général des lieux de privation de liberté. Cette nouvelle autorité administrative, totalement indépendante, chargée par la loi du 30 octobre 2007 de veiller au respect des droits fondamentaux des personnes privées de liberté dans plus de 5000 lieux d'enfermement, établissements pénitentiaires, locaux de garde à vue, rétention administrative, dépôts des tribunaux, etc. Et vous êtes le premier à occuper cette fonction. En mars dernier, quelques mois après l'adoption de la dernière loi pénitentiaire de novembre 2009, vous avez présenté votre rapport annuel où vous présentez un tableau précis de la réalité carcérale dans notre pays, un rapport extrêmement intéressant que vous pouvez retrouver aux éditions Dalloz et qui se fonde, comme le précédent, sur la visite de 163 lieux de privation de liberté et l'étude de près de 700 dossiers individuels. Un rapport qui s'intéresse certes à l'état des lieux, mais qui s'intéresse bien plus à l'état des personnes. Et vous affirmez dès votre avant-propos, il revient au contrôle général d'affirmer que les personnes sortent rarement de ces lieux autrement que brisées ou révoltées. Et vous ajoutez un peu plus loin, il faut être bien sûr de soi pour rester impavide devant ces hommes et ces femmes qui disent et répètent aux contrôleurs « Nous sommes là dans ce lieu parce que l'on a commis une infraction, mais cette infraction justifie-t-elle que l'on nous traite comme des chiens ?» Les témoignages qui figurent dans ce rapport, les constats faits par les contrôleurs, démontrent que la rudesse de ces propos, qui peut bien sûr choquer, n'est pas forcément excessive. Merci beaucoup d'être avec nous. Merci de votre disponibilité pour nous aider à regarder en face une réalité que beaucoup d'entre nous connaissent mal et que nous ne voulons pas toujours connaître, et nous aider à prendre la mesure des chantiers prioritaires que notre pays se doit de poursuivre et peut-être d'ouvrir en matière de politique carcérale. Avec nous également ce soir, je suis très heureux d'accueillir Anne Lécu, religieuse dominicaine, praticien hospitalier. Vous avez été aumônier d'étudiants à Paris et à Évry de 1998 à 2005 et vous travaillez comme médecin généraliste depuis 1997 à la prison de Fleury-Mérogis, d'abord chez les hommes et puis depuis 8 ans à la prison des femmes. Vous êtes l'auteur notamment d'un livre avec Bertrand Leboucher, « Où es-tu quand j'ai mal ?» paru aux éditions du CERF. Alors je sais, Anne, que vous avez beaucoup à dire à partir de votre expérience, des évolutions que vous avez observées toutes ces années et des questions sur lesquelles il vous semble indispensable et urgent de se pencher. Merci beaucoup d'être avec nous ce soir. Voilà, sans plus attendre, je vous laisse la parole pour 15-20 minutes environ chacun, avant, comme nous en avons l'habitude, d'engager le débat tous ensemble. Et je donne d'abord la parole à Anne.
Merci, bonsoir. Je suis très impressionnée d'être dans cette assemblée. Et je vais tenter de faire ce que je peux. Vous me pardonnerez mes approximations éventuelles. La première des choses que je voudrais dire, c'est que je suis donc médecin en prison, praticien hospitalier, payé par l'hôpital public. Je vous expliquerai, et je suis envoyée par ma communauté pour annoncer l'Évangile, et que ces choses-là ne sont pas nécessairement d'emblée évidentes et congruentes l'une avec l'autre. Et la première des choses que je tiens à dire ici, c'est que il me semble que je suis en prison. Alors, je suis arrivée en prison par hasard, mais que si j'y reste, c'est parce que j'ai la ferme conviction qu'il faut que l'Église de Jésus-Christ soit présente là où des personnes désespèrent, et que c'est l'unique motif pour lequel, enfin. C'est le motif le plus important à mes yeux pour lequel je reste dans ce lieu-là. J'y reste aussi parce que j'aime les détenus. Et je pense que c'est un peu synonyme de la phrase précédente. Je tiens à préciser que je fais très attention à ne pas mélanger les genres. Je suis certes religieuse et pour autant donc payée par l'hôpital public, c'est-à-dire que je me tiens à l'unique place qui est la mienne, qui est d'être médecin généraliste auprès des détenus. Je n'y suis pas comme aumônier. Et c'est très clair, cette distinction des genres. Je pense d'ailleurs que dans un milieu comme la prison, le fait de rester à sa place est une des choses les plus importantes pour pouvoir travailler ensemble. Je pense qu'il faut que les éducateurs fassent un travail d'éducateur, que les profs fassent un travail de prof, les aumôniers un travail d'aumônier, les surveillants un travail de surveillant, les psychiatres un travail de psychiatre et les médecins généralistes un travail de médecin généraliste. C'est-à-dire que je pense que les aumôniers ne peuvent pas s'improviser psychologue ou psychiatre. Moi, je ne peux pas m'improviser psychiatre, ni éducateur, ni travailleur social, etc. Si chacun reste là où il est, nous avons toutes les chances de pouvoir travailler ensemble. C'est une sorte de préalable. Donc, à la différence de Monsieur Delarue, j'ai une vision qui, lui, revendique une vision non naïve, à juste titre. Moi, j'ai une vision très partielle. que je revendique aussi. C'est-à-dire que je ne connais pas bien la prison. Je connais bien les soins en prison, dans une maison d'arrêt. Mais je ne connais pas bien la prison. Et je ne connais pas du tout ce que c'est qu'être enfermé dans une cellule. Et seuls les détenus peuvent dire ce que c'est que d'être enfermé dans une cellule. Moi, je ne peux pas le dire. Et je n'en parlerai pas. Les soins en prison, une réforme très importante a eu lieu en 1994, qui a rattaché les soins en prison qui dépendaient du ministère de la Justice au ministère de la Santé. C'est pourquoi nous sommes tous les services qui travaillons comme soignants auprès des détenus, nous dépendons d'un hôpital de proximité, donc nous à Fleury-Mérogis, nous dépendons de l'hôpital Louise-Michel d'Evry, du sud francilien très précisément. Et donc en fait nous sommes tous salariés de cet hôpital, que ce soit les infirmiers, la pharmacie, les kinés, etc., l'ensemble des personnes qui interviennent. Je voudrais, donc de façon très courte, et puis au besoin dans les questions on déploiera, répondre à la première question du titre, quelle est la situation dans les prisons françaises, y répondre à ma manière, autour de 5 convictions. La première conviction est pour moi la plus importante, je crois que tous nous pourrions y être, vraiment. Je pense que le fait d'être en prison peut quand même arriver à peu près, avec quelques nuances, à n'importe qui. J'ai dans mes patientes des personnes qui n'avaient jamais imaginé une demi-seconde qu'elles allaient arriver en prison. Et elles y sont. Elles y sont parfois parce qu'elles sont coupables, elles y sont parfois aussi en revendiquant une innocence sur laquelle je n'ai rien à dire, et je leur dis en général que de toute façon ça ne changera rien dans ma façon d'être avec elles, et je ne leur demande jamais pourquoi elles sont incarcérées, jamais. Si elles veulent m'en parler, elles m'en parlent. Et je ne vais pas non plus voir, sauf exception dans l'ordinateur, le motif de leur incarcération. Et je pense que cette préservation du secret judiciaire de la part des soignants est une des garanties de la préservation du secret médical de la part des autres. Je dis donc tous nous pourrions y être. Cette conviction a un corollaire, ou plutôt un préalable. Donc je suis arrivée en prison par hasard, je disais, en fait j'ai pris mon téléphone et j'ai téléphoné, il y avait de la place, donc j'y suis arrivée, bref. Sur les bons conseils de mes sœurs, qui ont dû se dire que peut-être c'était une bonne idée. Et je reste en prison en ayant la conviction de plus en plus ferme que je suis du côté des détenus. Ou pour dire les choses autrement, en ayant la conviction de plus en plus ferme, que nous sommes tous du même côté, qu'il n'y a pas deux côtés. Il n'y a pas d'un côté les détenus et de l'autre les surveillants, les soignants ou je ne sais qui. Il n'y a pas d'un côté les bons et de l'autre les méchants. C'est une vision un peu trop manichéenne. Et je suis absolument certaine d'être du même côté que les personnes que je côtoie, si côté il y a. Autrement dit, du côté des gens fragiles, du côté des gens qui ne sont pas complètement certains de leur avenir, alors à des degrés bien entendu qui n'ont aucun rapport les uns avec les autres, hein. Moi ma situation est certainement beaucoup moins précaire que la leur. Il n'empêche que je me sens absolument du côté de la personne éprouvée, sachant que tous, un jour ou l'autre, nous pouvons être éprouvés, de façon multiple, que ce soit par la maladie, par le deuil, hein, par la faute, par la méchanceté que nous pouvons commettre ou que nous pouvons subir, tout cela peut nous arriver vraiment à chacun d'entre nous. Autrement dit, donc, voilà, première conviction, tous nous pouvons y être et tous nous sommes du même côté, du côté des gens fragiles, qui à un moment ou à un autre peuvent tomber. Seconde conviction, la prison est un lieu de misère, une misère d'abord matérielle. Il faut acheter son papier toilette, sa brosse à dents, son dentifrice, etc., payer la télé, etc. Misère sociale, affective, relationnelle, intellectuelle. Pour parler crûment, un de mes collègues psychiatres dit volontiers que l'on travaille au fond de la poubelle. Et c'est d'abord vrai au sens strict. Si vous rentrez au quartier des hommes de Fleury-Mérogis, au bâtiment D4, pour ne pas le nommer, dans lequel j'ai travaillé il y a 13 ans, les abords de ce bâtiment étaient propres il y a 13 ans. Aujourd'hui, il y a environ 1,50 m de détritus au sol quand on rentre, qu'il faut franchir avant de rentrer dans le bâtiment. Donc nous travaillons effectivement au fond de la poubelle. Ça veut dire que les détenus vivent effectivement au fond de la poubelle. Je pense que c'est lié, alors pour le coup, ça, je ne suis complètement incompétente pour le dire, mais j'ai quand même un peu l'impression que le turnover des directeurs de l'encadrement, etc., de chacun de ces bâtiments, qui est tellement rapide, que sans doute ça ne facilite pas la prise de possession par l'encadrement d'un bâtiment et la connaissance des détenus, et peut-être du coup aussi la facilité à nettoyer, à ce que ce soit propre. Je ne sais pas très bien, mais il me semble qu'il y a un problème. Pour autant, la plus grande des misères, c'est sans doute la misère relationnelle. Et particulièrement dans les quartiers de femmes, qui sont certes plus propres, je pense que la séparation d'avec les enfants est la peine de prison par excellence. La plupart des femmes que je côtoie vont mal d'abord et avant tout parce qu'elles sont loin de leurs enfants, parce qu'elles n'ont pas de nouvelles de leurs enfants, parce qu'elles ont peur pour leurs enfants. Les femmes étrangères qui ont laissé, je pense à une femme qui est arrivée il y a peu de temps du Guatemala, son mari est mort dans un accident de voiture il y a 6 mois, elle a 4 enfants, elle a un frère handicapé, elle n'a pas d'argent, voilà. Donc elle a laissé les enfants à son frère, pensant faire un aller-retour, et puis elle a fait un aller simple, elle va rester probablement plus d'un an en France, avant de retourner là-bas, elle n'a pas pu téléphoner à ses enfants, voilà. Bon, misère relationnelle. Et comme vous le disiez tout de suite, le paradoxe, c'est que bien souvent, plus les prisons sont récentes, plus cette misère relationnelle est forte du fait des contraintes de sécurité qui sont plus imposantes. Et je constate à Fleury-Mérogis, dans le bâtiment qui a été rénové, qui donc est plutôt propre, la difficulté de vivre dans la prison est plus difficile. Concrètement, les mouvements sont bloqués plus longtemps dans la journée, ce qui oblige tout le monde à arrêter de travailler. J'ai des collègues médecins qui prévoient de voir 12 personnes et qui vont en voir 4 parce qu'il y en a 8 qui n'arriveront jamais parce qu'ils sont bloqués quelque part. J'ai récemment, plusieurs nuits de suite, été appelée dans ce bâtiment et été contrainte d'attendre 3 quarts d'heure qu'on s'occupe bien de moi, alors qu'on m'avait appelée pour une urgence. Ça veut dire qu'a priori, la personne pour qui on m'avait appelée attendait également mes soins. Lieu de misère aussi, en ce sens, alors là, il y a quelqu'un dans cette assemblée qui pourrait 50 fois plus en parler que moi, qui est caché au milieu, qui est un prêtre de la Mission de France, qui est au milieu là, qui devrait être à ma place, parce que ça fait 34 ans qu'il est éducateur, tout d'abord, à Fleury-Mérogis. Henri Gémier, pour les...
Il se fera remarquer tout à l'heure dans le débat, Henri.
Et en fait, il dit souvent, alors je me permets de transmettre ses propos qui m'ont toujours beaucoup intéressé, c'est que les éducateurs ont disparu. C'est-à-dire, lui-même est éducateur, il raconte assez volontiers que devenus des conseillers d'insertion et de probation, ils sont devenus des agents de probation. Et donc, du coup, une grande partie du travail éducatif qui était fait par ces personnes n'est plus fait par personne, ou par les vieux qui sont, comme lui, impossibles à maintenir derrière un ordinateur. Bref, donc c'est une vraie lacune que l'absence de travail social. Nous n'avons pas d'assistante sociale dans les services, donc c'est clair que c'est aussi une... Ça participe de la misère. Troisième conviction... Une fascination, et pour moi ça c'est quelque chose sur lequel je réfléchis beaucoup parce que ça me fait très peur, une fascination pour les dispositifs techniques pour faire tourner la prison. Voilà. Je pense que cette fascination est ancienne. Il me semble que le panoptique dont vous avez sans doute entendu parler, qui a été bien mis en évidence par Michel Foucault, le panoptique c'était un dispositif issu d'un courant de philosophie américaine de M. Bentham à la 18e, 19e siècle, qui imaginait une sorte de cylindre, de double cylindre. Donc en fait il disait voilà, pour surveiller il suffit de mettre une personne au milieu, les gens autour dans des cellules éclairées par l'extérieur de façon à ce qu'on puisse les voir par transparence, et donc c'est une mutualisation des moyens comme on en entend parler aujourd'hui. On met juste un surveillant et il peut voir par transparence toutes les cellules autour. Bon, donc c'est déjà un dispositif ce truc-là. Aujourd'hui, par extension, les caméras de surveillance relève du même principe. C'est-à-dire on se dit, si on surveille, les gens vont faire moins de bêtises parce qu'ils savent qu'on va pouvoir les voir ou au besoin regarder les vidéos rétrospectivement. Et donc le principe de la surveillance, normalement, va réduire un peu la délinquance. Donc ça, c'est un outil, un dispositif, je préfère dispositif à outil, technique. Le danger, c'est qu'à chaque fois qu'on utilise ce genre de dispositif, on enlève du facteur humain. Et donc, le fait d'être surveillé par une machine, c'est pas forcément ça qui va humaniser les prisons. Et je trouve que cette fascination pour les dispositifs techniques se retrouve en médecine. Vous savez très bien qu'on fait plein d'examens qui relèvent de la vue, donc des échographies, des radioscopies, des imageries, etc. Donc cette fascination pour la technique, elle n'est pas seulement dans le monde de la prison. Elle est dans la société en général et elle se retrouve dans la prison. On a un récent dispositif qui est un logiciel informatique imaginé par un surveillant qui s'appelle le cahier électronique de liaison, le CEL, comme cellule, poésie, qui en fait remplace les cahiers des surveillants où ils inscrivaient leurs informations, mais qui du coup est ouvert à tous les partenaires de la prison. Et donc ils ont imaginé, mais en toute naïveté, j'en suis convaincue, que les médecins allaient marquer des informations dans le machin, les profs, les aumôniers, voilà, tout le monde. Et comme ça, on a une sorte d'immense panoptique géant qui va pouvoir analyser le comportement du détenu minute par minute. Alors, 12h15, visite de sa grand-mère, 11h25, il a reçu un courrier de sa fille, 13h20, écrit au médecin, etc. Bon, ça, c'est très inquiétant, je trouve vraiment. Alors nous, d'une part, c'est bien clair qu'on ne renseignera pas ce logiciel, en tout cas à Fleury-Mérogis. Je crains qu'il y ait des endroits où ce soit moins évident. Et ce que j'essaye de, en tout cas à la prison des femmes, ce que j'ai exigé, pour parler clairement, je ne veux pas que nous le regardions. Je ne veux pas que nous lisions, nous l'équipe soignante, les informations écrites par les surveillants ou par quiconque, précisément pour préserver un minimum d'intimité pour le détenu, qu'il puisse se présenter différemment aux différents interlocuteurs. Tous dans notre vie, on a différents cercles de relations et on a la liberté de se présenter différemment auprès des uns et des autres. Je ne vois pas pourquoi cette liberté-là serait enlevée à la personne incarcérée. Je pense que derrière ça, il faut absolument protéger le secret médical, qui est de toute façon très souvent, pas forcément, comment dire, de façon méchante, mais très souvent sollicité de notre part, du genre, enfin, moi j'étais de garde hier soir, donc je rentre dans un bâtiment, est-ce que c'est grave, docteur? Qu'est-ce qu'elle a? Pourquoi vous l'envoyez à l'hôpital? Ben, je l'envoie à l'hôpital parce qu'elle est malade. Voilà. Bien. Derrière ça, sur les questions de dangerosité et de vulnérabilité, qui sont de très très montées en épingle, j'essaye d'accélérer un peu, sur toutes les demandes qui nous sont faites, on va nous dire en gros, de plus en plus ce sont ces deux objectifs sur lesquels on se focalise, et le logiciel cahier électronique de liaison a pour ambition de prévenir le risque de dangerosité et de vulnérabilité, donc on va faire des calculs à partir de grilles de statistiques issues en fait d'un certain courant qui est un courant comportementaliste aux États-Unis qui essaye de prévoir les choses, de prévoir les comportements. Là-dessus, je voudrais faire juste trois petites remarques. La première, c'est qu'on parle souvent de comportement, alors quand même jusqu'à preuve du contraire, le comportement c'est pour les animaux et pour les êtres humains c'est des conduites, ce qui est déjà une première nuance. La deuxième nuance, c'est que ces grilles de calcul statistiques sont issues du monde des assurances, c'est ce qu'on appelle des critères actuariels, où en fait dans les assurances, on a besoin de répertorier la population en la divisant par sous-groupe pour savoir si dans tel sous-groupe, il y a un risque plus important ou plus bas de tel ou tel événement. Bien. Quand on reprend ces mêmes critères sur le risque de dangerosité ou de suicide, parce que la vulnérabilité, en gros, ça veut dire suicide, en fait, on va reprendre des critères mathématiques et donc statistiques de la même façon. Or, ça ne marche pas. Ça ne marche pas parce que on ne peut pas prévoir le risque de suicide avec des grilles de calcul, puisqu'on touche à du vivant humain. Ça ne rentre pas dans des grilles de calcul. Je pourrais vous en parler plus longuement, mais j'essaye de passer. Et troisièmement, il y a un autre danger qui est de dire telle population ou bien tel individu a en soi un risque plus important de faire tel événement. Bon, c'est un peu la même chose qui se passait au XIXe siècle avec les phrénologues qui disaient que quand on avait la bosse du crâne, la bosse du crime, on avait un risque plus important de commettre un crime. C'est la même chose aujourd'hui, sauf que désormais c'est dans les gènes ou dans les hormones. Bien. Donc il y a une antidote à ça, qui est de dire, si votre grand-mère a la bosse du crime et qu'elle n'a pas commis de crime, c'est que, à la limite, tout le monde ne va pas commettre un crime quand il a la bosse du crime. Je prends cet exemple un peu léger, mais l'idée, c'est que l'être humain, il est capacité des contraires, c'est-à-dire qu'il peut tout à fait se détacher de la contingence. Même si j'ai la bosse du crime ou même si j'ai le gène du crime, ma liberté d'être humain fait que je peux ne pas être un criminel. Et donc ça, il faut aussi l'intégrer dans notre réflexion. Le danger global de cette fascination pour les dispositifs techniques, c'est le fatalisme. C'est de tomber dans le fatalisme et de dire finalement tout est prévu. Voilà, on n'a qu'à calculer le risque et on sera préservé. Quatrième conviction, je vais passer très vite, faire des soignants des experts. En fait, on nous demande très souvent un rôle d'expertise. Donc, pour reprendre la prévention du suicide, on va nous dire, docteur, est-ce que vous pensez que Madame Machin a un risque de se suicider? Si on disait vraiment ce qu'on pense, les surveillants seraient affolés. Parce que je pense que tout le monde en prison a un vrai risque de se suicider, quand même. Enfin, vraiment. Donc, bon. Le problème étant que, on nous demande un rôle d'expert qui n'est pas dans notre rôle de soignant. Il y a même un article du code de déontologie très précis sur ce sujet qui dit très précisément qu'un médecin ne peut pas être à la fois médecin traitant et expert. Donc nous n'avons pas à être des médecins experts. Et nous avons à résister continuellement lorsqu'on nous demande quelque chose, une information qui est de l'ordre de l'expertise. Très concrètement, moi, ça m'arrivait il y a encore pas très longtemps, une juge me téléphone en disant « Qu'est-ce que vous pensez de l'état de santé de Madame Machin ?» Je dis « Madame, je n'en pense rien. Demandez à un expert qu'il vienne, il vous répondra. Bon. » Mais ça veut dire beaucoup de papiers, beaucoup d'explications, beaucoup de temps pour maintenir cette position qui est parfois difficile à maintenir. Concernant la prévention du suicide, suite au rapport Terra il y a quelques années, qui avait préconisé qu'on fasse plus attention aux détenus, les conséquences ont été de réveiller les détenus toutes les 2 heures pour être sûr qu'ils dorment. Donc si moi je pense que Madame Machin a des risques de suicide et que je le dis, on va la réveiller toutes les 2 heures pour être sûr qu'elle dorme, ce qui ne va pas nécessairement arranger son état psychique. Donc je me tais, bien, je me tais, je ne dis pas que Madame Machin, à tel point qu'il y a même une dame une fois qui est venue me dire, je peux pas pleurer dans le couloir, sinon on va encore me réveiller toutes les 2 heures, quoi. Parce que les larmes, c'est dangereux, on ne sait pas. Et récemment, le rapport de Monsieur Albrand, qui a des préconisations intéressantes, en particulier d'essayer de pouvoir maintenir plus facilement les liens familiaux, la retombée en pluie fine d'un rapport de ce type, ça va être ces fameux kits anti-suicide dont vous avez dû entendre parler dans les médias, qui consiste à donner à quelqu'un qui ne va pas bien, en plus du réveil toutes les 2 heures, des draps en papier, une couverture anti-feu, et dans une cellule qu'on appellera lisse, c'est-à-dire sans aspérité. Voilà. Donc je vous souhaite essayer de dormir dans les draps en papier plusieurs nuits, en étant réveillé toutes les 2 heures, vous verrez, ça ira mieux. Enfin, cinquième conviction, il faut faire attention à notre langage. Je pense que la prison, plus que d'autres univers, est parfois un risque de langue de bois. Je vais vous donner 2 exemples. On va les soigner en prison. Voilà, on entend souvent ça. Il y a un fou dangereux qui est arrêté. On voit ça, il y a les titres à la télé pendant plusieurs jours. Et voilà, on va les soigner en prison. Je pense que ça, c'est de la langue de bois typique. Parce que la prison, ce n'est pas un hôpital, donc il faut quand même retrouver le sens de la réalité. La finalité, le lieu qui a pour finalité le soin, c'est un hôpital. Le lieu qui a pour finalité la sanction, c'est une prison. Maintenant, que la prison soit occasion de soins, tout à fait vrai, c'est bien pour ça qu'on y travaille. Mais ce n'est pas la finalité de la prison que de soigner les gens. Autre langue de bois, il y a de plus en plus de fous dangereux en prison. Les fous dangereux, il y en a quelques-uns, parfois, comme on en entend parler au journal télé. Il n'y en a pas forcément beaucoup plus qu'avant. Ce qui est certain, c'est que les malades mentaux sont bien plus vulnérables que dangereux. La première chose qui risque de leur arriver, c'est pas d'être dangereux, c'est d'être vulnérable. Et ça, c'est très connu des psychiatres. Ensuite, deuxième élément de cette phrase, peut-être que ça dépend comment on compte. Moi, une fois, j'ai voulu compter dans la prison des femmes le nombre de personnes qui avaient vraiment besoin d'un soin psychiatrique. Bon. Si on prend toutes les personnes qui ont un traitement psychiatrique, y compris les trucs pour dormir le soir parce qu'elles n'arrivent pas à dormir, on a 1/4 de la population pénale qui rentre dans cette catégorie. à la prison des femmes, encore une fois. Si on prend vraiment les gens qui ont un traitement psychiatrique avec un suivi par le psychiatre, on tombe à 10% à peine. C'est plus que dans la population générale. Mais quand même, c'est pas des 80% qu'on entend parfois ou des chiffres absolument hors de toute mesure qu'on entend parfois dans les médias. Donc, il faut savoir raison garder. En conclusion, je ne vais pas répondre à la deuxième partie de la question parce que je ne suis pas certaine de pouvoir vraiment y répondre. Une nouvelle politique carcérale est-elle possible? Cela dit, j'ai une ou deux convictions que je vais vous dire. Le premier enjeu pour moi de la politique carcérale, c'est l'opinion publique, c'est-à-dire que c'est nous, vous et moi. Voilà. C'est-à-dire que c'est notre manière d'avoir un regard sur la prison, s'il change ou pas, qui peut changer les choses. Ce n'est pas parce que les prisons sont propres qu'elles sont vivables et habitables. Ce n'est pas parce qu'on y soigne les gens qu'il faut enfermer des malades. Et je crains toujours... Et ça, c'est une question que je laisse ouverte, Je pense que à vouloir absolument des prisons parfaites, propres, où les gens seraient bien soignés, même des hôpitaux psychiatriques prisons maintenant, avec la création des UHSA, le danger, c'est de ne pas se questionner sur l'enfermement. Le danger, c'est de ne pas se questionner sur qui on met en prison. Et à la limite, moi j'ai peur que si les prisons sont trop bien, qu'on y mette encore plus de monde. Alors qu'en fin de compte, ma conviction profonde, c'est qu'il faut absolument diminuer le nombre de personnes incarcérées. Pas d'abord construire des prisons, mais d'abord réfléchir à qui on met en prison. Première conviction. Du coup, je pense qu'il faut... c'est absolument comme si j'étais le président de la République, c'est n'importe quoi. Je pense qu'il faudrait plutôt recruter des juges plutôt que de construire des prisons. Voilà. Si vous le rencontrez, vous le direz de ma part. Je pense qu'il faut impérativement continuer à séparer ce qui relève du soin et ce qui relève de la sanction, c'est-à-dire garder de façon la plus virulente possible le secret médical. Moi, ça, je n'en démordrai pas. Sans doute construire des prisons de taille plus petite, hein, plus humaine. Voilà. Mais je ne vais pas me lancer dans des vœux pieux, je préfère m'arrêter là.
Voilà. Je ne dirais pas qu'il faut garder les vœux pieux lorsque vous serez candidate à l'élection présidentielle, mais...
Il n'y a pas de danger.
Merci Anne de votre regard sur les situations dans la prison à partir de votre expérience à Fleury. Je rappelle brièvement les 5 convictions très importantes, très intéressantes. Tous nous pourrions y être, nous sommes tous du même côté, du côté des gens fragiles qui ne sont pas certains de leur avenir et qui peuvent tomber eux aussi. La prison est un lieu de misère matérielle, sociale, relationnelle, affective, aggravée par une absence de travailleurs sociaux. La fascination, vous avez insisté beaucoup là-dessus, pour les dispositifs techniques qui finalement enferment, contrôlent et enferment les individus pour prévoir les comportements avec tous les dangers qu'il y a aussi de tomber dans le fatalisme. Faire des soignants des experts... L'importance aussi de faire attention à notre langage quand on parle des prisons. Et puis vous avez terminé sur l'un ou l'autre enjeu, notamment l'enjeu de l'opinion publique. Finalement, c'est notre propre regard sur la prison qui est en jeu et que sans doute l'enjeu est d'abord de faire diminuer le nombre de personnes incarcérées plutôt que de vouloir en avoir davantage dans de belles prisons. Merci beaucoup Anne, je crois que ça va bien nous aider à avancer dans notre réflexion. Et sans plus attendre, je laisse la parole à Monsieur Delarue.
Merci beaucoup. Je remercie le Centre Sèvres de m'avoir ouvert ses portes. Et je voudrais dire que c'est sans doute un effet de la naïveté que Anne Lécu a refusé de me donner, que je partage à peu près la totalité de ce qu'elle a dit. Et par conséquent, tout mon effort va consister à dire la même chose en termes différents. Je tiens ce que je vais vous dire de multiples regards et conversations que nous avons eus avec les uns et les autres. Nous avons visité, comme il a été rappelé tout à l'heure, beaucoup d'établissements, nous avons beaucoup de courriers, nous échangeons beaucoup de multiples formes, avec, sous des multiples formes, avec les uns les autres, détenus comme personnel aussi. C'est un mot sur lequel peut-être je vais revenir. Et il y a beaucoup de choses déchirantes qui sont dites. Je ne sais pas si les détenus sont au fond de la poubelle. Mais ce que je sais, c'est qu'il faut s'intéresser aux prisons, non pas seulement parce que c'est une difficulté sociale à résoudre, mais parce que chaque détenu, au fond de lui, dans son dénuement de détenu, dans son dénuement d'humanité, nous interroge tous, dans notre condition humaine. Et il est difficile de parler longtemps avec un détenu sans se poser sur soi-même des questions. Et voilà pourquoi, en effet, il faut s'intéresser aussi à la prison et à ceux qui y vivent. La prison, 62 000 détenus en France, 67 000 personnes écrouées, mais 5 000 qui vivent en dehors de la prison, notamment, en effet, avec des bracelets électroniques. Dans à peu près 200 établissements pénitentiaires, un petit peu moins, on distingue, vous le savez peut-être, les maisons d'arrêt, qui sont des établissements où vivent la plupart des détenus, qui sont réservés à la fois aux prévenus, ceux qui attendent leur jugement. Il y en a à peu près 23% sur les 62 000 personnes que j'ai évoquées. Et puis ceux qui ont des courtes peines, des peines inférieures à un an, ou qui finissent leur peine avec une durée inférieure à un an. Et puis il y a ce qu'on appelle aussi les établissements pour peine, beaucoup plus rares, où sont voués les gens condamnés à des durées assez longues de détention. Et dans ces établissements pour peine, il y a quelques maisons centrales, qui sont les établissements de haute sécurité, où on met en particulier les condamnés à de très longues peines, voire à perpétuité, puisque ça existe encore aujourd'hui. Il y a sur ces 62 000 détenus, pardonnez-moi, 2100 femmes à peu près. Donc les femmes ont beaucoup moins de chances, je le précise, boss ou pas boss, d'aller en prison que les hommes. C'est un fait social. Il y a à peu près 700 enfants en prison. On appelle ça des mineurs dans le langage juridique, mais ce sont des enfants. Et ce volume reste à peu près constant depuis une bonne trentaine d'années. Alors que le nombre, lui, des détenus global a beaucoup augmenté, le nombre des mineurs est resté à peu près le même en prison. Et il faut en rendre hommage aux juges. Ce qui a changé beaucoup chez les mineurs, je vous le dis en passant, au risque d'allonger mon propos, c'est que si la plupart des mineurs, il y a 30 ans, étaient là à titre de prévenus, c'est-à-dire en attendant leur jugement, et qui sortaient très vite d'ailleurs dès avant leur jugement, aujourd'hui, au moins 40% d'entre eux sont des gens qui sont condamnés. Et notamment, un bon nombre d'entre eux sont condamnés à des peines criminelles, pour des faits criminels. Là aussi, c'est une évolution sociale. Par rapport au reste de l'Europe, nous nous distinguons peu sur ces chiffres-là. Nous sommes dans la moyenne européenne, s'agissant du nombre de détenus rapportés au nombre d'habitants. Nous sommes dans la moyenne européenne, là, je parle plutôt de la Grande Europe. Hein. Nous sommes très loin des chiffres russes, par exemple, ça n'étonnera personne. Ou écossais, ça étonnera peut-être un peu plus de monde. Nous sommes dans la moyenne. Nous sommes dans la moyenne aussi pour le nombre de femmes ou le nombre de mineurs. En revanche, lorsqu'on rencontre dans une cellule un Européen avec lequel on peut échanger, je me suis trouvé un jour face à un Polonais dans une cellule et on n'avait pas grand-chose à se dire, le malheureux, parce que j'ai oublié mon Polonais depuis longtemps et lui ne parlait pas beaucoup français. Mais quand on se trouve face à un Européen qui vous parle des prisons de son pays et qui nous parle des prisons de notre pays, alors il nous dit à peu près, ça rejoint la poubelle, mais dans quel cul de basse-fosse vous m'avez jeté. Autrement dit, si en termes quantitatifs nous ne nous séparons pas de nos voisins européens, en termes qualitatifs, nous accusons un retard de plus en plus important par rapport aux pays naturellement comparables. Je ne parle pas des pays du lointain Orient européen. Alors, c'est par là peut-être que je vais commencer. Je voudrais parler un petit peu de l'état matériel des prisons assez brièvement. Et je voudrais ensuite vous parler un petit peu plus longuement, dans les temps, j'espère, qui me sont impartis, de la condition carcérale, avant de dire un mot des politiques éventuelles d'amélioration. L'état des prisons, je dirais, c'est la description que maintenant on commence à bien connaître, constat accablant, disaient les journalistes après la publication de notre dernier rapport, un de plus. Et c'est vrai que les prisons françaises offrent un visage très, très repoussant, très vétuste, très ancien. À peu près les deux tiers, un tout petit peu moins maintenant, des prisons ont plus de 100 ans d'âge. Et dans ces prisons, pour faire un peu vite, on ne sait pas régler encore convenablement le problème de l'eau, le problème de la lumière, le problème du feu, le problème de l'air. Sur tous ces points, il y a matière à revoir énormément de choses. L'eau, il n'y a qu'à visiter une salle de douche dans un établissement moyen, vous y trouvez un nombre absolument invraisemblable de moisissures parce que ça fuit de tous les côtés. La lumière, parce que il y a tellement de grillages aux fenêtres réduites des cellules que la lumière du jour est considérablement réduite, et la lumière artificielle, c'est en général un espèce de moignon d'électricité tout en haut, puisque les plafonds sont élevés souvent, et qui dispense vraiment une lumière qui rend impossible la lecture d'un livre quand on est assis dans son lit, si on peut s'asseoir, c'est pas toujours le cas. Le feu, impossible de cuire un aliment dans la plupart des bâtiments, puisque l'état de l'électricité fait qu'on ne peut pas installer de plaques chauffantes. Et donc les détenus inventent des machins, avec leur génie propre d'ailleurs, pour se faire chauffer des aliments. En général, ça fait des choses un peu bizarres, où l'administration leur vend des petits produits de chauffage, genre charbon, je sais pas quoi, sur les sacs desquels il y a écrit « produits susceptibles de provoquer des cancers ». Et d'ailleurs, ils le relèvent tous joyeusement. Et quant à l'air, il faut sentir les odeurs de la prison. Bien, je n'insiste pas là-dessus. Donc ces problèmes-là ne sont pas résolus pour la plupart des prisons. Et par conséquent, on en a pris conscience, et des étapes successives font que depuis maintenant à peu près 25 ans, pas tout à fait, on construit beaucoup de prisons, comme il vient d'être dit, dans ce pays. On a construit dans un premier temps, à partir de la fin des années 80, 13 200 places nouvelles. Puis il y a eu un nouveau programme de 4000 places, et puis enfin est actuellement en cours un programme de 13 200 places, et on nous annonce encore, après 2012, fin du programme actuel, un nouveau programme de construction. Et donc on a, dans ces nouvelles constructions, en effet, des apparences de choses qui ont changé. Il peut y avoir des plaques chauffantes, il peut y avoir des fenêtres un peu plus grandes, les grillages et les barreaux sont toujours là, bien sûr. Il peut y avoir aussi de l'eau chaude au lavabo, hein, ce qui est considérable, parce que pour laver votre linge, c'est quand même beaucoup mieux. Et puis, il peut y avoir aussi des douches individuelles. Bon. Quand on a dit ça, on a dit, on a réglé le problème des prisons. Parce qu'on s'est limité à l'état des lieux. Et je crois que, ce faisant, on a manqué l'essentiel. Et quand on dit prison, humiliation pour la République, prison de la République, etc., etc., tous les titres n'ont pas manqué, je crois qu'on a été un peu effrayé de cet état matériel. Et moi, je crois qu'il faut écouter les détenus sur ce point. Et les détenus nous disent « je préférais la vieille prison où j'étais encore l'année dernière, etc., à la prison, entre guillemets, moderne, où je me trouve aujourd'hui. » Il ne faut pas souhaiter, évidemment, les rats et les cafards dans les cellules, mais il faut se demander pourquoi cette préférence. Et c'est là que je voudrais venir de plus près à la condition carcérale. Et je vais la définir par quatre aspects, cette condition carcérale. Je crois que, au fond, dans la conscience de chacun d'entre nous, la prison, c'est une sorte de club méditerranéen un peu forcé, où il est loisible, puisqu'on a beaucoup en effet de loisirs, de regarder la télévision toute la journée allongé sur sa couchette. Et qui n'a pas, dans le très fond de sa conscience, rêvé un jour de cette vie-là ? Bien, il faut dire tout de suite, et ce discours-là a sous-tendu naturellement le discours sur les prisons 4 étoiles qu'on a tenu au moment où on a installé les télévisions, à l'époque Badinter, en prison. Et encore aujourd'hui, des gens nous disent, quand on construit de nouvelles prisons avec des douches dans les cellules, que tout ça, c'est fait pour des gens qui ne le méritent pas et que les prisons, c'est vraiment trop luxueux. La réalité n'est pas celle-là. Je voudrais d'abord, premier de ces aspects, insister sur l'effrayante, ça a été dit tout à l'heure, l'effrayante solitude de la prison. Et c'est une solitude effrayante, pourquoi ? Non seulement parce que vous êtes fondamentalement seul, mais parce que vous êtes seul en proie à vous-même. Vous vous retrouvez face à vous-même. Vous savez, il y a un exercice qui a été fait dans une prison bien connue qui s'appelle Clairvaux, qui se trouve dans l'Aube, là, pas très loin de Troyes, et qui est une maison centrale, comme je l'évoquais tout à l'heure, assez saisissante. Et il y a dans cette prison, qui est une prison de l'ancienne abbaye de Clairvaux, un festival tous les ans. Et l'année dernière, en septembre, ils se sont posé la question de savoir, au fond, les liens qu'il pouvait y avoir entre le moine et le détenu. Moine tout seul dans sa cellule, le détenu tout seul, c'est assez tentant. Hein ? Bon. Je récuse absolument ce parallèle. Hein ? Le détenu est là pour une raison qu'il lui est sans doute imputable, mais qu'il n'a pas choisie. Il se retrouve face à son angoisse. Notre société, c'est le moins qu'on puisse dire, ne l'a pas formé à être seul. L'angoisse de celui qui ne sait pas ce qu'il va devenir, ne sait pas ce qu'il va devenir demain, non seulement parce qu'on attend son procès, mais même quand le procès a été fait, est-ce que je vais tenir encore demain ? L'angoisse de ceux qu'on a laissés dehors, dont on n'a pas ou peu de nouvelles. On parlait des femmes tout à l'heure, mais c'est vrai aussi de la petite amie, hein, de la femme, de l'épouse, du conjoint, des enfants bien sûr, des proches, de l'affaire qu'on a à gérer et dont on sait qu'elle commence à se casser la figure, de la visite qu'on attend, du parloir où personne n'est venu, on ne sait pas pourquoi, de l'angoisse de la situation carcérale qui vous affronte à beaucoup de difficultés, je vais redire ça dans un instant. Bref, le cas échéant aussi du remords. Il y a des gens qui vivent très mal ce qu'ils ont vécu, pas tous, mais un certain nombre d'entre eux. Et vous êtes toute la journée à vivre avec ça, puisqu'il n'y a pas d'autre possibilité. La deuxième caractéristique de la condition carcérale, c'est que, en même temps que vous êtes profondément seul, vous êtes confronté à une société extrêmement brutale, avec une hiérarchie sociale complètement tranchée, avec en haut de l'affiche ceux qui ont commis les infractions entre guillemets nobles, c'est-à-dire les braqueurs sans effusion de sang. Alors ça, c'est des types très respectables et qu'on a intérêt à respecter. Et puis en bas de l'échelle, je pense qu'Anne Lécu les connaît bien, c'est les femmes infanticides. Et donc, toute cette hiérarchie sociale, on vous la décline en permanence avec vos compagnons de cellule qui vont se dépêcher de savoir pourquoi vous êtes là. Et puis, s'ils ne le savent pas, ils vont se renseigner. On va finir par leur dire. On va vous la décliner dans la cour de promenade. On va vous la décliner partout. Hein ? Et si vous êtes du mauvais côté, tant pis pour vous. La prison est une espèce de monde darwinien où les plus faibles succombent et les plus forts triomphent. Le plus faible, c'est celui, par exemple, à qui, vous savez, dans les prisons, il y a des murs assez élevés et puis il y a des cours de promenade. Et toute l'adresse d'un certain nombre de gens qui sont soucieux des prisonniers, c'est de leur balancer des choses par-dessus le mur dans la cour de promenade. Ça s'appelle des projections. Ça s'appelle aussi des missiles, dans le langage des détenus. Donc il faut jeter des missiles et il faut aller chercher les missiles dans la cour et quelquefois aussi dans la zone qui borde la cour et puis jusqu'à la prochaine haie de barbelés, ça s'appelle la zone neutre. Qu'est-ce qu'on fait quand on voit une balle de tennis qui est tombée dans la zone neutre? Eh bien, on demande au plus faible d'aller la chercher pour le compte de quelqu'un d'autre. S'il se fait prendre, tant pis pour lui. Et s'il gagne, eh bien, on récupérera la balle de tennis. Bon. C'est ça la sélection darwinienne. Il y a plein de gens en détention qui n'osent pas descendre en cours de promenade. Et par conséquent, les 2 heures de cours de promenade généreusement allouées par l'administration, ils ne la font pas. Ils ne les font pas, ils restent 24 heures sur 24 dans leur cellule. Bon, c'est un monde très brutal. Troisième aspect de cette condition carcérale, c'est des relations avec les surveillants, quelle que soit la qualité des surveillants, qui sont certains d'entre eux admirables, certains d'autres un petit peu moins. Mais la plupart le sont. Relations avec les surveillants, trois caractères. La première, c'est l'infinie dépendance où vous êtes de la bonne volonté des surveillants à votre égard. Pour le moindre geste, on ne peut pas imaginer ça quand on ne connaît pas la prison. Mais pour bénéficier, comme il a été dit, d'un paquet de mouchoirs en plus, vous êtes enrhumé, vous avez droit à 10 mouchoirs dans le mois. Bon, un paquet pour le mois. Bon, qu'est-ce que vous faites quand vous êtes enrhumé? Eh bien, vous demandez au surveillant de vous en procurer un autre. S'il veut pas, s'il n'a pas le temps, bon, et ainsi de suite. Pour tout comme ça. Pour le moindre des gestes quotidiens, vous êtes dépendant de lui. Bon. Deuxième caractéristique des relations avec le surveillant. Il vous fige dans votre infraction. C'est très frappant dans les papiers officiels, dans les documents qu'on voit sur les détenus. On vous dit X, prénom Robert, virgule, détenu, virgule, condamnez-le pour A, condamné le 13 juin 1954 pour un condamné à perpétuité, j'en ai vu un qui avait 44 ans de prison derrière lui, A, 20 ans ou perpétuité pour crime, d'homicide, machin. Bon. Donc vous avez ça sur tous les papiers. Autrement dit, vous n'êtes pas monsieur Robert X, vous êtes le détenu X qui a fait un jour un crime abominable ou une petite infraction légère. C'est comme ça que vous êtes défini. Vous n'êtes pas défini dans votre humanité, vous êtes défini dans votre délinquance. Et c'est ainsi que la prison vous regarde. Et enfin, le dernier terme de votre relation avec les surveillants, c'est l'arbitraire absolu. Bon, c'est le premier mot que vous disent les détenus que vous interrogez sur les relations avec les surveillants. Pourquoi ? Ben parce que les surveillants, ils tournent sans arrêt, c'est jamais les mêmes. Bon, parce qu'il y a ce qu'on appelle, enfin ça fonctionne par roulement, pour aller vite. Et donc, vous avez un jour le surveillant gentil qui va vous donner le mouchoir en papier dont vous avez besoin ou faire circuler la cigarette ou le briquet pour allumer votre cigarette. L'après-midi du même jour, vous aurez un surveillant un peu plus rigide qui, lui, voudra pas vous donner le mouchoir, le briquet ou la cigarette. Pourquoi ? Vous ne le savez pas. Le surveillant gentil, vous le reverrez une semaine après, ce jour-là il sera de mauvaise humeur, il refusera de vous rendre les services qu'il vous a rendus la semaine dernière. Il refusera de vous rendre les services qu'il a vus, que vous avez vus, lui rendre à votre copain, et vous ne savez pas pourquoi. Et ainsi de suite. Et pour les gestes qui sont les plus sérieux. Il y a des gens qui sont victimes de véritables harcèlements de la part de surveillants un petit peu difficiles, dès lors que vous avez eu un jour une accroche avec lui pour je ne sais quel motif, vous êtes énervé un petit peu, il va vous le faire sentir éventuellement pendant longtemps après, par de tout petites mesures. Voilà. Voilà les relations avec les surveillants. Enfin, quatrième aspect de la condition carcérale sur laquelle je voudrais insister parce qu'on n'en parle jamais, c'est les effets dévastateurs de l'emprisonnement pour les proches du détenu. Moi, j'ai rencontré dans une prison du Sud-Ouest, il n'y a pas tellement longtemps, un détenu qui était là depuis 6 mois, qui était d'ailleurs pas en très bon état, et son fils, qui a 13 ans, a tenté, depuis le début de son emprisonnement, avait tenté 2 fois de se suicider. Il s'est raté, les 2 fois, mais il a tenté 2 fois de se suicider. Bon, et donc, il faut penser que la condition carcérale, le désespoir, la privation, ne sont pas neutres aussi pour les proches. Et je voudrais souligner ici la souffrance de ces familles. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire ? Je ne vais pas donner de solution simpliste, et je ne suis pas plus le président de la République que le précédent orateur, malgré que j'en ai, bien entendu. Je crois d'abord qu'il faut vaincre beaucoup de mythologies à propos de la prison. Je voudrais en signaler deux. La première, c'est de croire, comme je l'ai dit, à la résolution purement matérielle des choses. Et je crois que beaucoup de gens, honnêtement, sont convaincus que quand on aura construit des prisons neuves, ça ira mieux. Je suis convaincu au contraire, la condition carcérale est quelque chose qui remonte très loin en arrière, et que c'est évidemment cela qu'il faut changer. Et c'est beaucoup plus compliqué. La deuxième chose aussi à vaincre, c'est est-ce que Anne Écu en a aussi parlé à sa manière, est-ce que la prison est le meilleur outil pour punir aujourd'hui? Moi, je ne suis pas opposé à la prison, et je suis encore moins opposé à la sanction pénale. Comme disait Ricoeur, quand on a rompu le pacte social, il faut une sanction. Ça n'est que justice, comme il disait beaucoup plus longuement que moi, et savamment. Je crois qu'il faut s'interroger quand même sur, ou en d'autres termes, pourquoi supportons-nous depuis si longtemps une prison qui est un échec retentissant, s'agissant des objectifs qu'elle s'assigne, c'est-à-dire réinsérer, prévenir la récidive. Pourquoi supportons-nous ces échecs redoutables que sont, puisque ça a été cité tout à l'heure, en effet, la sortie de prison en complet échec? Pourquoi supportons-nous ça? Voilà, des questions à résoudre. Troisième question peut-être, ou troisième mythe, pourquoi faut-il s'intéresser aux détenus alors que les victimes ont tellement souffert? Bon. Et moi, je n'arrête pas de rencontrer des gens qui me disent « Mais monsieur, vous faites un travail qui est un peu étonnant, un peu surprenant, puisque vous vous occupez de gens qui ont été atroces avec leurs victimes. » Bon, il n'y a pas beaucoup d'atrocités chez les détenus, honnêtement, mais il y a des crimes atroces. En effet, ce sont ceux qu'on a tous en tête quand on pense à la prison. Bien à tort, puisque le séjour moyen en prison est 9 mois, il faut jamais oublier ça. Hein. Les grands criminels représentent 1% des détenus. Bon. Donc, pourquoi est-ce qu'on soigne aussi bien les détenus alors qu'on devrait s'occuper des victimes? Mais j'ai dit, mais les choses n'ont jamais été antagoniques. Moi, je suis pas du tout opposé à ce qu'on prenne soin des victimes, et je connais des douleurs aussi profondes chez les victimes, naturellement. Mais pourquoi diable est-ce que c'est antagoniste du soin apporté aux humains qui sont aussi derrière les barreaux, qui ont commis des erreurs, mais dont nous avons choisi, en les condamnant à une peine de prison, de les regarder comme des humains? Alors, une fois qu'on a dit ça, je crois qu'il faut considérer que la prison est un produit. La prison est le produit de deux choses, d'un certain nombre de conditions sociales, et je crois que la prison est inséparable de la pauvreté, il faut quand même le dire. Même si, naturellement, tout le monde peut être en prison, je souscris à cette opinion, mais il y a quand même nettement plus de pauvres que de riches en détention, hein, faut pas se leurrer non plus là-dessus. Donc il faut avoir des politiques de pauvreté, il faut avoir aussi une politique pénale réfléchie. Je suis très frappé, moi, enfin, une des choses qui m'a surprise en prison, c'est que les détenus n'en veulent pas tellement aux surveillants. Ils reconnaissent tous qu'ils sont là pour les garder, ben, il faut bien des gens pour les garder. Mais alors, les relations avec la justice, alors là, ça impressionne énormément. Et avec une virulence, une violence, même pour des gens qui se sentent coupables, par ailleurs. Hein. Et c'est vrai que des histoires de justice, on en entend qui font un peu vaciller le reste de raisons qu'on croit avoir. Bon. Donc, la prison est ce produit-là, et par conséquent, elle est inséparable et des conditions sociales, et du fonctionnement du système judiciaire. Et le système judiciaire français, aujourd'hui, ne va pas bien, mais c'est pas le sujet de ce soir. Alors, s'agissant de la prison proprement dite, je crois qu'il faut réfléchir à quelques thèmes très simples. Je crois qu'il faut réfléchir à la manière dont on exerce en prison des solidarités. Je crois que le dénuement en prison est une chose réelle auquel il faut apporter secours. Je veux dire, la société doit prendre en compte le dénuement des détenus. Et il est assez navrant qu'en 2010 en France, ce soit des associations de secours charitables qui donnent aux détenus un maigre pécule qui ne suffit pas aux besoins les plus élémentaires et qui n'est même pas régulier parce que les associations n'ont pas assez d'argent à distribuer. Bon. S'occuper du dénuement. S'occuper naturellement aussi des solidarités en prison, et je crois qu'il faut développer les solidarités nécessaires et non pas encourager les antagonismes. On me citait pas plus tard qu'hier, je crois, un détenu qui fait difficulté en prison parce qu'il a des réactions très très difficiles. Et on me disait, il y a quelques co-détenus qui sont venus aimablement proposer aux surveillants de le calmer, le détenu en cause, à leur manière. Bon. Est-ce que tout ceci est acceptable ? Est-ce que c'est bien d'imaginer qu'il faut prêter l'oreille à ce genre de choses ? Il faut, troisième élément, beaucoup développer les activités en prison. Le travail aujourd'hui est minoritaire, la formation professionnelle est minoritaire, on ne sait pas très bien d'ailleurs si elle est utile ou pas. Le culturel est réduit à sa plus simple expression. Alors on vous dit toujours, mais oui, en prison, il y a eu l'orchestre de Lille qui est venu dans la prison de Loos, il y a eu un tel qui est devenu licencié en droit, etc. Bon, alors, il faut arrêter ce genre de discours. C'est l'arbre qui cache la forêt, tout ceci. Hein. Et derrière ces petits arbustes, il y a la forêt de la misère, de l'ennui, de l'inactivité, etc. Je n'y reviens pas. Donc il faut gérer sérieusement tout ceci. Je crois aussi qu'il faut apprendre à ce que la prison travaille avec l'amont et avec l'aval. Je veux dire par là qu'il faut réfléchir aux situations dans lesquelles, entre l'incarcération et ce qui s'est passé avant, il y a un lien. On fait tout comme si on découvrait le détenu en prison, on s'attache à sa personnalité, il y a des centres d'orientation, il y a des gens très savants qui viennent le regarder, la première chose qu'on lui fait raconter, c'est un questionnaire d'évaluation pour savoir, comme il a été dit tout à l'heure, s'il avait envie vraiment de se suicider ou pas, comme s'il allait le dire. Bon, bref, donc je crois qu'il faut qu'on connaisse, et moi je milite par exemple, mesure très simple, pour que il y ait un entretien obligatoire avec un membre de sa famille. Quand un détenu entre. Il faut faire les liens avec l'aval. Il faut mettre en éveil le travailleur social qui va pouvoir l'aider à sa sortie. Il faut qu'on mobilise des organismes de logement qui vont pouvoir, le logement, les premiers besoins du sortant, avant le travail. Je crois que tout ça est encore balbutiant, expérimental. Il y a des gens qui se dévouent de façon formidable, mais c'est des gens qui... sur le volontarisme desquels reposent des solutions qui restent encore individuelles. Il faut penser à tout cela. Je crois aussi qu'il faut faire en sorte que chez les surveillants, chez le personnel en général, la bonne monnaie chasse la mauvaise et non pas la mauvaise monnaie chasse la bonne. Il faut créer au sein de ces personnels des émulations telles que ce soit les bons qui soient valorisés et les mauvais qui soient pourchassés. Parce que en prison, une des caractéristiques de la prison, c'est que on se forme sur le tas. On vous a formé avant, il y a des tas d'écoles spécialisées pour ça, où il y a un travail remarquable. Mais vous savez, le travail, il est confrontation avec des humains, et donc tout ça, les livres, c'est bien, mais c'est l'ancien qui va m'apprendre le métier. Bon. Bon, il faut que dans cet apprentissage sur le tas, ça soit le bon qui soit valorisé. Il faut que l'encadrement soit beaucoup plus présent dans la prison, dans la détention. Aujourd'hui, on a tendance à transformer les directeurs de prison en managers, bon, en investisseurs, en tout ce que vous voulez, en directeurs de ressources humaines. Bon, c'est pas ça le rôle d'un directeur de prison. Le rôle d'un directeur de prison, c'est d'être responsable d'une détention et des gens qui s'y trouvent. Donc il faut penser à tout ça. Et puis je crois que, moi je vais conclure exactement comme l'a fait Anne Lécu, qu'elle me le pardonne, ou pas d'ailleurs, il faut convaincre l'opinion. Il y a des gens admirables en prison qui travaillent, et notamment, ça a beaucoup changé ça, hein, depuis 30 ans. Mais ce qui nous empêche d'appréhender la prison, c'est la crainte où nous sommes tous, d'avoir affaire à des gens abominables. Et je reviens à mon point de départ, ces gens abominables, eh bien, ils nous questionnent. Quelle est la part de bon, quelle est la part de méchant ? En nous, pas chez eux, en nous. Et si nous réfléchissons à notre part de bon, alors nous trouverons bien, chez celui qui nous interroge sur ce point, aussi sa part de bon.
Merci beaucoup, Monsieur Delarue, pour la richesse de cette intervention. Je crois qu'on va effectivement retenir bien cette conclusion et ce début. Il faut s'intéresser aux prisons parce que chaque détenu nous interroge tous dans notre condition humaine. Alors, je ne vais pas revenir sur ce qui vient d'être dit. Je veux juste m'arrêter sur ce que vous avez dit sur l'état des prisons. L'état des prisons qui est une vraie question. Mais qu'on manque l'essentiel si on ne s'occupe que de l'état matériel. Et vous avez bien su pointer effectivement les différents chantiers à partir de la situation carcérale actuelle où il convient de travailler et de s'interroger. Alors, comme le temps passe, file, non, ce n'était pas du tout un reproche, nous allons bien tout de suite passer aux questions. Peut-être témoignage aussi, chacun peut apporter sa propre réflexion. Alors voilà, nous avons la parole. N'hésitez pas, nous allons prendre plusieurs questions au démarrage. Donc devant, voilà, monsieur. Voilà, il faut bien l'allumer derrière, par derrière. Ça va? Bon.
Bonsoir, j'écoute avec intérêt vos interventions, c'était vraiment intéressant. J'avais une question en fait surtout sur l'aspect réparation psychologique qui passe par peut-être aussi par le type d'activité dont justement vous parliez tout à l'heure qui pourrait essayer de combler ce vide, cet ennui qu'on retrouve en prison et qui pourrait éviter justement des violences qui débordent de certains prisonniers quoi. Donc je voulais savoir en fait si on avait déjà suffisamment réfléchi à des moyens possibles, enfin maintenant, qui pourraient être appliqués, en fait, sur le type de travaux qui pourraient, enfin, en fonction de la peine, en fait, qui pourraient, par exemple, je sais pas, des travaux forcés, mais de quelle manière amener aussi ces travaux forcés à se faire, ou des travaux d'intérêt généraux, je dirais, enfin, pas forcément Cayenne, hein, c'est pas ça que je vois, mais je vois plutôt des travaux, en fait, qui seraient donné comme une obligation pour le prisonnier pour réparer en fait un tort causé à la société qui pourra en même temps contribuer à se reconstruire également psychologiquement, à agir de manière à prendre conscience de la peine qu'il a faite quoi. Voilà.
Merci beaucoup. On va prendre peut-être une autre alors dans la même en continuant de l'autre côté sur la même rangée.
Merci beaucoup. Merci pour ces deux magnifiques, courtes mais denses interventions. J'aimerais revenir sur l'utilité de la prison. Il me semble que vous avez abordé ce difficile sujet. Je crois qu'un paramètre important, c'est l'ignorance dans laquelle on se trouve de la récidive. Puisqu'on sait que le nombre de crimes commis et non élucidés dépasse de beaucoup hein, le nombre de crimes ou délits dont on connaît les auteurs, mais de beaucoup, beaucoup. Enfin, j'ai plus tout à fait les statistiques en tête. Et que donc, c'est quand même très difficile de savoir, parmi ceux qui sortent, ceux qui récidivent sans être repris. Alors, est-ce que, personnellement, je pense que dans la société d'aujourd'hui, entre un jeune qui se fait prendre et un jeune qui se fait pas prendre, le pronostic entre les deux de celui qui va devenir un vrai dur multi-récidiviste, pas forcément celui qui est allé en prison, hein, ou qui n'est pas allé en prison plutôt. Mais est-ce que, au point de vue de la recherche, au point de vue des données, on a des chercheurs qui travaillent sur ce thème, et on peut donc s'approcher d'une idée de à quoi sert la prison. Est-ce que, de fait, finalement, grâce à ça, les gens choisissent d'autres moyens de s'exprimer.
Merci. Une troisième, peut-être, derrière, ou un peu au milieu, voilà, oui.
Oui, je voulais parler de deux choses, deux petites questions. La première, c'est qu'on dit que, je ne sais pas si c'est officiel, que 30% des peines pénales ne sont pas effectuées. Bon, si c'est vrai, même si c'est 25% ou 20%, quelles en sont les raisons? Est-ce que c'est le manque de place dans les établissements ou autre? Deuxième question, est-ce que les gardiens, les surveillants dans les prisons, qui n'ont pas toujours une bonne réputation, puisqu'on les appelle souvent les matons ou je ne sais pas quoi, comment sont-ils recrutés, comment sont-ils formés?
Voilà, on va rester là pour l'instant. Il y a déjà pas mal de thèmes. Est-ce que, Anne, éventuellement, sur quel type de travaux proposés dans les prisons pour réparer? Non.
Non, juste une toute petite chose, mais je suis complètement incapable de répondre à cette question. Votre question, réparation psychologique. Je voudrais juste mettre une nuance sur le terme. Il me semble qu'on qualifie de psychologique beaucoup de choses qui sont existentielles. En fait, qui ne sont pas nécessairement de la pathologie psychologique, que les gens souffrent parce qu'ils sont en prison, et moi c'est un truc que je vois tout le temps, parce qu'en fait, quand les gens vont mal, on nous les adresse. Mais en fait, peut-être qu'il vaut mieux qu'ils aillent voir le prof, l'aumônier, discuter avec le surveillant d'elle, le conseiller d'insertion et de probation, je ne sais pas. Ce n'est pas nécessairement de la souffrance psychologique. Alors tout est lié, on ne va pas couper l'humain en tranches. Mais il me semble qu'il y a une dimension d'abord existentielle, qui est que c'est difficile d'être incarcéré. Et donc, comment faire? C'est difficile d'être coupable aussi. Donc, c'est tout à fait vrai ce que vous dites. Mais moi, je n'ai pas d'éléments vraiment concrets et réels pour vous répondre. Je préfère que...
Je crois que les deux premières questions se tiennent assez largement. La question de la réparation... induit en effet quelque chose qui suppose de la part de la personne condamnée un geste à l'égard de la victime. Un certain nombre de sanctions pénales prévoient ça. Il y a la possibilité, depuis une vingtaine d'années, de tout un attirail juridique sur lequel je ne vais pas insister, mais qu'on appelle la médiation pénale, la composition pénale, tout un tas de démarches conçu pour essentiellement des petits délits qui permettent à l'agresseur ou au délinquant de réparer directement sa victime. Il y a aussi ce qu'on appelle les travaux d'intérêt général qui permettent au délinquant d'apporter une pierre quelconque à la cité, le cas classique étant le délinquant de la route, comme on dit aujourd'hui, affecté comme brancardier à gare. Bon. La prison n'est pas conçue pour ça. Elle n'est pas conçue pour une réparation immédiate, c'est-à-dire sans médiation, de l'agresseur envers sa victime. La prison est conçue pour être au contraire un appareil média qui va s'intercaler entre l'agresseur et la victime. Et c'est si vrai que je rappelle qu'il y a quand même un mécanisme abstrait de réparation de la victime en prison, qui est lorsque vous travaillez en prison, que vous percevez, il y a trois parts dans vos revenus. Il y a la part qu'on vous donne, il y a la part qu'on vous met de côté pour la sortie, et puis il y a la part qu'on donne à l'indemnisation de la victime. Sauf que ça, c'est trois parts, mais la part du détenu, elle compte pour les 200 premiers euros, et les détenus qui gagnent plus de 200 euros en prison, c'est vraiment l'exception. Bon, par conséquent, de facto... il y a peu d'indemnisation des victimes. Mais le système carcéral est conçu pour qu'il y ait bien une réparation des victimes. Alors, la question que vous posez en réalité, c'est de savoir si cette médiation qu'est la prison aujourd'hui contribue, oui ou non, à la réparation des victimes, d'une part, et à éviter que l'agresseur initial, appelons-le comme ça, j'aime pas beaucoup ça, mais peu importe, redeviennent agresseurs, on rejoint la récidive, à la sortie de prison. Bon. La réponse est, dans beaucoup trop de cas, aujourd'hui, cette médiation ne fonctionne pas. Et j'en viens à la deuxième question. Je crois que la question, en effet, à se poser, c'est est-ce que la prison, que j'ai esquissé tout à l'heure, est-ce que la prison remplit bien sa mission? Il est hors de doute que pour certains types de délinquance, la prison remplit sa mission. Pour d'autres, elle ne la remplit pas du tout. Et je reviens sur, Anne Lécu disait fort justement tout à l'heure, n'importe qui peut aller en détention. Si demain, j'ai un accident de la route, je tue deux personnes, je suis fautif parce que j'ai trop bu, j'irai pendant 18 mois en prison. C'est le tarif aujourd'hui. Il y a 30 ans, jamais un délinquant routier, comme on dit aujourd'hui, encore une fois, n'était conduit en prison. Aujourd'hui, c'est le cas. Il y a 30 ans, il y avait plein de vols simples, d'auteurs de vols simples en prison. Aujourd'hui, il n'y en a pratiquement plus. Tout ça pour vous montrer que les choses ne sont pas stables dans une société. Hein. On punit aujourd'hui des choses qu'on punissait pas hier, et réciproquement. Bon. Alors, est-ce que la prison remplit sa mission en termes de prévention de la récidive? Je pense que pour certains, pour beaucoup même, non. Non. Et la prison, dans la mesure où vous en sortez dans des conditions matérielles épouvantables, vous encourage d'une certaine manière à la récidive. Parce que votre... Il y a encore aujourd'hui... Enfin, pardon. On sait, de façon abstraite, hein, on sait que la sortie brutale, ce qu'on appelle la sortie sèche, sans aucune préparation, facilite la récidive. On le sait, ça. C'est statistiquement démontré. Eh bien, aujourd'hui, on sait aussi que au 1er janvier 2009, 68% des détenus sortaient encore en sortie dite sèche, c'est-à-dire sans préparation. Donc nous savons très bien que nous gérons un système qui, d'une certaine manière, facilite la récidive. Bon. Alors, la question, c'est de savoir si donc ce système doit perdurer. Apparemment, on s'en inquiète pas. La deuxième question, c'est de savoir si certains détenus n'aurait pas d'autres sanctions pénales plus efficaces que la prison. Je vais vous prendre un exemple que vous allez trouver odieux. Mais j'y tiens quand même. On met en prison des auteurs d'homicide. Ah, bon, bah oui, quand même. Bon. Il y a, parmi ces auteurs d'homicide, des auteurs d'homicide pour des histoires sentimentales, des conjoints sur un autre conjoint, etc. Est-ce que la prison règle quelque chose à leur situation? À cela. Vous savez, j'en ai approché un certain nombre, mais beaucoup d'entre vous aussi ici l'ont fait. Bon. Je suis convaincu que la prison, il faut une sanction à cet homicide. C'est un fait gravissime. Est-ce que la prison arrange les choses? Est-ce que la prison aide à sortir les enfants? Parce qu'il y a des enfants, par exemple. Hein? Le père qui tue sa femme, deux enfants, qu'est-ce que vont devenir les enfants? Est-ce que l'aide sociale à l'enfance est le meilleur remède au crime commis? Donc, toutes ces questions-là, il faut se poser au cas par cas la question de savoir, au cas par cas, c'est-à-dire non seulement catégorie d'infraction par catégorie d'infraction, mais j'allais dire personne par personne, est-ce que la prison est bien adaptée à sa situation? Est-ce qu'elle va l'aider à revenir à une vie normale, c'est-à-dire une vie que chacun d'entre nous espère pour elle et pour son entourage? Troisième élément de réponse, la récidive, oui, il y a des gens qui travaillent dessus, elle est bien connue. Simplement, sa mesure est très difficile parce que tout dépend de ce que vous appelez la récidive et tout dépend l'échelle de temps dans laquelle vous la mesurez. Alors, ce qu'on fait habituellement, on mesure la récidive légale, c'est-à-dire la réitération d'un délit exactement identique, pour dire les choses simplement, dans un intervalle de 5 ans après la sortie de détention. Et on s'aperçoit que ce taux de récidive varie considérablement du type d'infraction à un autre. Contrairement à ce que nous serinent les médias et certaines autorités tous les matins, il n'y a pas, ou pratiquement pas, de récidive en matière criminelle. Ceux qu'on a montés à la une des médias sont l'exception radicale. Bon. En matière de crimes, et notamment de crimes sexuels, il y a extrêmement peu de récidives. Bon. En matière de crimes de sang, il y a extrêmement peu de récidives. Mais comme vous le laissiez entendre fort justement, il y a énormément de récidives dans la petite délinquance, j'allais dire, de rue, c'est-à-dire dans le petit délinquant voilà, bon, tout ce qu'on sait là-dessus. Là, il y a beaucoup de récidives, et c'est la raison pour laquelle, moi, j'appelais à réfléchir à ce combat inséparable, non seulement de modernité, entre guillemets, j'ai pas beaucoup ce terme, de la prison, mais à la lutte contre la pauvreté aussi. Et à la lutte pour la resocialisation d'un certain nombre de gens qui sont déjà perdus bien avant de connaître leur premier séjour en prison. Alors, sur la troisième question, si Anne Lécu m'y autorise, oui, il y a des peines non exécutées, mais je vous rappelle quand même, parce que là, il doit pas y avoir d'ambiguïté là-dessus, que le code de procédure pénale prévoit qu'il y a des peines d'emprisonnement qui ne sont pas exécutées. Et donc, il faut bien séparer dans ces peines inexécutées celles qui sont dues à la volonté du juge. En l'état actuel du code, mais ça vient de changer puisque la loi pénitentiaire a multiplié par deux ses durées, lorsque vous êtes condamné à une peine de prison de moins d'un an, le juge a la possibilité de vous faire exécuter cette peine autrement. Bon. Donc, il vous condamnera précisément, une des formules que j'évoquais tout à l'heure, une libération avec un bracelet électronique, par exemple, etc. Bon, très bien. Donc, on dira, d'une certaine manière, que la peine d'emprisonnement n'est pas exécutée. Mais c'est une chose parfaitement prévue. Je signale, pour évoquer un autre cas du même type que le nôtre, que les Suisses, qui sont pourtant, dit-on, mais peut-être qu'on se trompe, des gens raisonnables, ont interdit dans leur pays, purement et simplement, l'exécution des peines de prison inférieures à un an. Bon. Dans notre pays, ce n'est pas une interdiction, c'est une faculté pour le juge de dire que ça n'est pas exécuté. Et puis, il y a d'autre part des peines qui ne sont pas en effet exécutées, parce que, compte tenu de la surcharge des greffes et des tribunaux, il est impossible d'ordonner à quelqu'un, notamment pour les très courtes peines de prison, de rejoindre immédiatement la prison, etc. Bon. Et donc, il n'y a pas inexécution de peine, il y a retard d'exécution de peine. Bon. Non, c'est pas tout à fait la même chose, quand même. Hein. Et donc, vous vous heurtez, alors du coup, à ce paradoxe qui est que il y a des gens qui sont condamnés à 3 mois de prison, qui oublient un petit peu tout ça, puis un jour, on vient les chercher chez eux, et puis ils ont complètement oublié, etc. Je veux pas les plaindre, naturellement. Ils ont été condamnés. Mais je plains simplement que ces défauts d'organisation soient imputables strictement aux moyens que l'État alloue à son système judiciaire. Alors, ces difficultés ont d'ailleurs tendance à se réformer depuis qu'on a désigné dans les tribunaux un bureau spécial pour s'occuper précisément de l'exécution des peines. Alors, sur la formation des surveillants, pardonnez-moi, 7 à 8 mois de formation, après recrutement par concours, niveau en théorie 3e, et il y a à peu près, sauf erreur, quelques 250 places, j'espère ne pas me tromper de chiffre, il y a eu au dernier concours à peu près 6000 candidats. Le chômage est là.
On reprend une série de questions. Il y a une question sur la gauche, là-bas, enfin sur ma gauche, tout au fond de l'allée. Le micro arrive, ça sera mieux pour tout le monde. Merci.
Oui, vous avez l'un et l'autre, et je crois à très juste titre, soulevé la question de l'opinion publique. Et ça venait après une description d'une situation qui est tout à fait terrifiante, indigne sans doute d'un pays comme le nôtre qui se dit la patrie des droits de l'homme, etc. Mais est-ce que fondamentalement l'opinion publique est mobilisée sur ce sujet? On a l'impression qu'elle est malheureusement souvent mobilisée plus dans l'autre sens. Vous avez rappelé l'histoire des prisons 4 étoiles du temps de Banater, ce qui montrait bien que l'opinion publique, à l'époque, alors peut-être que ça a évolué, elle était plutôt dans le sens, finalement, c'est pas si grave que ça, ils ont ce qu'ils méritent. Bon. Est-ce que l'opinion publique est prête à se mobiliser pour mettre fin à cette situation absolument indigne? Et corrélativement, bien entendu, tant que l'opinion publique ne sera pas dans le bon sens, les hommes politiques n'ont pas de raison d'afficher ça en tête de priorité dans leur programme. Donc c'est évidemment tout à fait corrélé. Que peut-on faire pour essayer de changer le centre de gravité de l'opinion publique sur ce thème?
Très bien, merci. Autre remarque, tout au fond, au milieu. Voilà, monsieur qui est debout.
J'approuve d'autant plus votre intervention, par exemple, sur les permissions de sortir. Vous avez, et ça rejoint l'observation de monsieur, il est évident qu'il faut expliquer à l'opinion publique, puisqu'il s'agit de cela, qu'une permission de sortir pour un détenu, ce n'est pas une espèce de cadeau qu'on lui fait. C'est que si cet homme sort, n'ayant pas, pendant quelques week-ends qui ont précédé une longue peine, repris contact avec sa famille, son entourage social, familial, éventuellement de nouveaux employeurs, eh bien, c'est un gars qui ira beaucoup plus facilement vers une situation de récidive que si, ce que vous avez qualifié, monsieur le contrôleur général, de sortie sèche. Par conséquent, c'est là où l'opinion publique doit être effectivement éclairée, que c'est l'intérêt, c'est notre intérêt collectif à tous, plutôt que de vituperer contre les cas de récidive terribles de gens qui ne sont pas sortis, qui parfois commettent des crimes abominables. Mais c'est pas parce qu'il y a des échecs retentissants qu'il faut se priver de cette possibilité de voir que la prison ne peut pas s'achever sur une sortie d'un seul coup. Et le deuxième point que je voulais dire, c'est que le chiffre qui a été cité de 25% inclut malheureusement Et c'est pour ça qu'il est relativement faux, les problèmes du fait qu'une peine de 1 an ne peut pas être exécutée sans que la personne soit convoquée par le procureur pour voir les conditions dans lesquelles cette peine. Pourquoi ? Toujours la même raison. C'est que la prison n'est évidemment pas la solution la plus adéquate pour un certain nombre de choses.
Merci. Et juste sur
une
votre
question,
voilà,
que
non, voilà, c'est bon.
Le film La Promesse.
Merci. Voilà. On continue sur la droite, mademoiselle, voilà, brièvement, pour qu'on puisse avoir le temps de la réponse.
J'avais juste une question sur la notion des sorties sèches. Comment, il y a simplement un tiers, si j'ai bien retenu les chiffres, des détenus qui sont accompagnés dans leur sortie. Qu'est-ce qu'on peut faire pour lutter contre ces sorties sèches, qui sont le plus grand facteur de récidive ?
Voilà. J'ajoute ma propre question, j'en profite puisque je suis au micro. Il faut bien y avoir quelques avantages. Les questions que vous posez, Monsieur Delarue, est-ce que vous avez l'impression qu'elles trouvent quand même véritablement un début d'écho dans les milieux dirigeants, dans les milieux de décision, ou bien finalement, il y a d'autres urgences qui demandent aussi de très grands moyens financiers que, ma foi, les prisons, on verra ça après. Commencer à répondre.
Deux petites choses. Sur les sorties sèches, il y a quand même différents cas de figure. Par exemple, les personnes qui sont prévenues, elles peuvent tout à fait arriver à la fin de leur mandat de dépôt le soir à 11h du soir. Et donc le fax arrive dans la prison. Et pour ne pas retenir de façon abusive les personnes, on les met dehors à 11h05. Voilà. Donc ça, dans la série sortie préparée, voilà. J'ai vu une fois de mes yeux une femme colombienne qui était enceinte. Son mandat de dépôt est arrivé à expiration pour une raison X ou Y qui n'a pas été renouvelée. On l'a mise dehors à 11h le soir. Voilà. Donc s'est retrouvée à dormir sur le banc devant la prison jusqu'au lendemain parce qu'il y avait personne et qu'elle parlait pas français. Et voilà. Bon. Alors ça, c'est le cas extrême, hein. Mais ça veut dire que bien souvent, quand on travaille nous de nuit à Fleury, on voit des gens qui sortent à minuit avec leur sac babou et qui ont leur ticket pour téléphoner au taxi et se débrouiller quoi. Pour voilà, dans la série sortie préparée, c'est grandiose. Voilà. Donc ça, ce sont effectivement des gens qui sont prévenus. Mais, bon. Et ça peut arriver n'importe quand, n'importe quelle heure du jour. Alors ils savent pas nécessairement qu'ils peuvent demander à rester passer la nuit en prison. Tout le monde ne le sait pas. Ils peuvent demander à passer la nuit au chaud, particulièrement quand c'est l'hiver, et à être libérés le lendemain matin. Bon, mais ça, c'est tout le monde, enfin, on ne leur dit pas forcément. Deuxième cas de figure très compliqué, les grâces présidentielles, par exemple, ou apparentées. C'est-à-dire qu'une sortie est programmée, on sait que Madame Machin va sortir plus tôt, genre début septembre, mettons qu'elle est malade, je sais pas quoi, je vous parle de ce que je connais, désolé, et donc on prend des rendez-vous à l'hôpital, machin, etc. On organise les choses pour elle. Bon. Grâce présidentielle, paf, elle sort le 15 août ou le 30 juillet. Bon, on est en vacances, personne n'est prévenu. Voilà, elle sort sèche. Bon. Et sans compter les sorties sèches ordinaires des 65% de détenus. Bon. Deuxième petite chose sur l'opinion publique. Moi, je pense que je suis pas certaine qu'il y ait beaucoup de solutions, à part le désir profond de présenter les choses différemment. Je suis absolument désolée, mais tant qu'au JT de 20h, on présentera les choses concernant la justice de cette manière, en mettant en exergue les figures extrêmement dangereuses de tel ou tel multirécidiviste, en faisant de la surenchère, et que tout le monde est fasciné par ce truc, et que ça mettra les gros titres partout dans la presse et dans les journaux, on va avoir du mal à avoir un discours un peu différent. Donc il faut qu'il y ait des gens qui soient convaincus de traiter l'information différemment. Et je pense que ça passe par une explication inlassable de la part de ceux qui en sont de ce milieu-là et de chacun d'entre nous s'il est convaincu que c'est nécessaire d'expliquer. Je vais vous donner un tout petit exemple sur la rétention de sûreté qui n'est pas directement liée à la question de ce soir mais qui me paraît tout à fait exemplaire. Et ça rejoint la question de la récidive. Bon. Vous savez très bien qu'on a débattu autour des questions de rétention de sûreté en disant les violeurs récidivistes en particulier, on va les soigner, encore une fois, double langage, neuve langue de Orwell, on va les soigner et donc on va les mettre dans des prisons qui seront pas des prisons d'ailleurs, dans des établissements qui seront pas des prisons, ce sera à Fresnes, il y aura des barreaux, les conditions seront les mêmes que les prisons, mais ce ne sont pas des prisons. Bon. Et on va évaluer, et ça va être un séjour, puisque ce n'est pas une peine, dont on ne connaît pas la durée, et on va évaluer s'il y a un risque de récidive ou pas. Bien. Si, par exemple, on prend les chiffres de récidive de viol, la moyenne étant de 1,3% de récidive. Bon. Et si on utilise nos fameuses grilles actuarielles dont je vous parlais tout à l'heure, alors on fait notre questionnaire avec ces fameuses grilles, et on voit que M. Schmurtz, il a un risque double de récidive par rapport à la population générale. Ça veut dire qu'il a un risque de 3% de récidive au lieu de 1,3%. Je fais ça à la louche. Hein. Bon, on va présenter ce papier au juge en disant « Monsieur Machin a un risque double de récidive par rapport à au violeur lambda. » Qu'est-ce qu'on fait? Forcément, le juge va dire « On va le laisser en rétention de sûreté. » Je sais pas, moi je serais juge, je pense que je répondrais ça. Ça veut dire que si on regarde vraiment les chiffres, toutes les personnes qui seront dans cette situation, si on en prend 100, il y en a 3 qui vont récidiver. Ça veut dire qu'on va en maintenir en rétention de sûreté 97 pour des clous. Donc ça, il faut l'expliquer aux gens. Parce que si on l'explique pas, on peut pas comprendre à quel point c'est absurde cette histoire-là. Voilà.
Oui, je crois qu'Anne Lécu a dit encore une fois l'essentiel. Moi, ce qui me frappe, pour revenir un petit peu sur ce qu'on a tenté d'écrire ces derniers mois en lien avec ce qu'elle vient de dire, c'est que la prison est un système où la sécurité s'aligne non pas sur le danger présenté par la moyenne des détenus ou la masse des détenus, mais nécessairement s'aligne sur le détenu le plus dangereux. Les mesures qui sont prises en prison s'alignent sur le détenu le plus dangereux. Et donc, on recherche la sécurité maximale. Et donc, de façon structurelle, vous avez en prison une majorité de gens qui ne se reconnaissent pas dans les mesures de sécurité qu'on prend à leur encontre. Ou pour dire les choses, comme le disait un détenu qu'on rencontrait un jour chez nous, mon épouse est là, si les murs de la prison s'effondraient, 99% d'entre nous resteraient là. Alors, pour reprendre la question de l'opinion, moi je pense que c'est une bataille extrêmement difficile, mais qui doit bien peser tous les données du problème. J'ai essayé de l'expliquer au ministère de la Santé cet après-midi s'agissant de l'hospitalisation psychiatrique, parce que c'est un peu de même nature. Je leur disais, au fond, je crois que c'était au cours d'une conversation avec les psychiatres aussi, je leur disais, bon, peut-être qu'il faut renforcer des mesures de sécurité dans les hôpitaux psychiatriques à condition de mettre sur la table 3 items, 3 choses, 3 éléments. Premier, la sécurité. Deuxième, la gestion hospitalière du nombre de lits d'hôpital. Troisième, le bien thérapeutique du patient. Si on n'en prend qu'un des 3, ça ne marche pas. Eh bien, je dirais les prisons, c'est la même chose. Il faut prendre la destinée des personnes individuelles qui sont là. Il faut prendre l'organisation de la prison, etc., et il faut prendre les besoins de la sécurité. On ne peut pas dire aux Français aujourd'hui plus de prison. On ne peut pas ignorer ce besoin social de la sécurité. Mais il ne faut pas que ce besoin de la sécurité emporte tous les autres. Ça, c'est inadmissible. Et je crois que dans ce discours unilatéral sur la sécurité, il y a un perdant, c'est la dignité des personnes. Et il ne faut pas s'habituer à un discours sur la sécurité qui ignore la dignité des personnes. Et je trouve que moi, c'est à ce critère-là que je juge, personnellement, le discours tenu par les uns et les autres sur la société d'aujourd'hui. Est-ce qu'on veut la sécurité, quoi qu'il advienne? Toutes les histoires de ce type se sont toujours très mal terminées. Est-ce que je veux la sécurité en respectant la dignité des personnes, de toutes les personnes, alors on peut essayer d'engager le dialogue. Donc, pour répondre à la question, je dirais, moi je ne souhaite pas dire à l'opinion qu'elle n'a pas besoin de la sécurité, mais je souhaite lui demander jusqu'à quelle sécurité vous voulez écraser la dignité de ceux que vous avez mis en prison. Et je crois pour ça que c'est pas très facile comme discours, mais je crois que pour ça, il faut montrer la réalité carcérale. J'ai la vanité de penser que non seulement ceux qui travaillent en prison, mais ceux qui, comme nous autres contrôleurs, vont y voir, ont la responsabilité de témoigner ce qui se passe en détention. Et je crois qu'il faut le faire de façon aussi tranquille possible, aussi sans excès de langage, c'est inutile, mais en montrant bien que la dignité est quelquefois un petit peu l'oubliée des prisons. Je pense aussi qu'il faudra montrer un jour exactement ce qu'a dit Anne Lécu tout à l'heure, c'est-à-dire que la prison, c'est pas fait pour les grands criminels,
c'est fait pour vous et moi. Et que pour la prison, il faut faire exactement ce qui se passe pour la garde à vue. Vous savez, la garde à vue, on pensait que c'était pour les petits délinquants, machin. Il se trouve qu'aujourd'hui, il y a 700 000 personnes en garde à vue par an. Alors, on commence à se dire, mais tiens, un jour, je vais peut-être y passer aussi. Hein? Et, ou alors, si c'est pas nous, c'est notre fils, notre neveu, etc., etc. Et on a tous dans les familles des histoires comme ça, maintenant. Parce que la garde à vue, c'est devenu un petit peu une banalité. Bon. Ben, il faut que... Alors, du coup, on se préoccupe un peu de la garde à vue. Il est un peu tard, mais vaut mieux tard que jamais, comme dit l'adage. Alors, moi, je crois que pour la prison, c'est la même chose. C'est la même chose. Qu'est-ce que vous diriez si votre frère, votre fils, votre époux était en prison et qu'on le traiterait comme on traite aujourd'hui les détenus? Voilà. Je crois que nous avons pour chance le fait que, depuis une dizaine d'années, il y a quand même quelque chose, depuis le livre du docteur Vasseur, le livre aussi d'un aumônier de la prison du Mans, dont j'oublie malheureusement le nom aujourd'hui, mais ça va me revenir tout à l'heure. On a une conscience un petit peu plus aiguë de ce qui se passe en prison. Bon, et je crois qu'il y a un intérêt, pour répondre aussi à votre question, père, il y a un intérêt de certaines classes dirigeantes sur le thème de la prison. J'en veux pour preuve les visites qu'un certain nombre de parlementaires, minorité de parlementaires, mais tout de même, effectuent assez régulièrement maintenant dans les lieux de détention. Voilà, donc c'est un combat de longue haleine, mais comme vous l'avez excellemment dit, monsieur, nos politiques nous s'intéresseront valablement à la prison. On l'a vu dans la longue histoire rétrospective française, hein, où on n'a pas dépensé un sou pour les prisons entre leur construction dans les années 1870 et aujourd'hui. Donc on convaincra les politiques français que lorsque l'opinion s'inquiétera en effet de ce qui se passe en son nom, puisqu'on juge au nom du peuple français, je vous le rappelle, derrière les murs des prisons. Un mot encore sur les sorties sèches. Oui, enfin, ça a été très bien écrit par Anne Lécu, je ne vais pas y revenir. Non, je crois honnêtement qu'on en est préoccupé aujourd'hui, et je crois d'abord que tendanciellement, le nombre de sorties sèches a tendance à diminuer. Je crois que la récente loi pénitentiaire devrait avoir pour effet de multiplier par deux le nombre des aménagements de peine, c'est-à-dire de diminuer d'autant les sorties sèches, ce qui n'est pas rien. Encore faut-il pour ça que les moyens soient derrière. Moi, je suis consterné que le travail social n'existe pratiquement plus en prison, je veux dire travail social basique. Et encore une fois, faut-il faire le lien entre la prison et ce qui la suit.
Eh bien, écoutez, vraiment, en votre nom, je voudrais remercier très chaleureusement Jean-Marie Delarue et Anne Lécu de nous avoir éclairé sur la situation dans les prisons, nous donner aussi envie, je crois, pour notre petite part à chacun de participer à cette bataille de l'opinion publique. Donc vraiment, merci beaucoup d'être venu ce soir pour cette soirée. Deux remarques avant que nous nous séparions. D'abord, pour rappeler qu'on peut trouver le rapport d'activité 2009 du contrôleur général des lieux de privation de liberté aux éditions Dalloz. Et puis également que dans le cadre du département d'éthique publique du Centre Sèvres, Anne Lécu proposera l'an prochain un cours intitulé « Souffrance et monde carcéral », 4 séances le samedi matin du mois de novembre. L'enjeu de ce cours est de réfléchir philosophiquement à ce qui est en jeu pour la personne incarcérée, mais aussi pour la société dans cette expérience d'enfermement et comment l'Évangile peut y trouver sa place. Il vous sera possible, dans les semaines qui viennent, de vous renseigner davantage auprès du secrétariat du Centre Sèvres. Vous trouverez à la sortie, non seulement bien sûr l'urne, si vous souhaitez faire un don, mais également quelques tracts de l'association ALBA, qui essaye notamment de faire entrer l'art dans les prisons par l'organisation d'expositions et d'événements culturels. N'hésitez pas à prendre les tracts qui sont à votre sortie. Merci de votre fidélité et rendez-vous le mardi 1er juin pour notre dernière soirée d'éthique publique de l'année, où nous devrions aborder la question des OGM. Que faut-il penser des OGM? Mardi 1er juin à 19h15. Bonne soirée à tous. Merci.